France Inter.
Il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La course à l'échalote des distributeurs d'essence, c'est à qui proposera les plus belles offres alors que les cours du pétrole flambent à nouveau. Nous verrons ce qu'il en est en réalité. Les pays du Golfe, encore frappés par les Iraniens, nous serons sur place. Et l'erreur du renseignement américain qui a mené au bombardement d'une école en Iran. Nous en parlons avec notre invité, ancien patron du renseignement militaire français. À suivre encore, un ancien agent des services secrets en garde à vue à Nice. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
C'est l'affaire de la tête de cochon déposée devant le domicile du maire Christian Estrosi.
On a bon espoir d'aboutir très vite, nous confier une source proche de l'enquête avant-hier soir. Là, ce qui est sûr, c'est que ça accélère dans cette affaire de barbouzerie niçoise.
Les dernières infos avec vous et puis gros plan pour les municipales sur deux villes, Toulouse et Limoges. Nous parlerons aussi de cet avion qui décolle au nez et à la barbe de ses passagers restés au sol. Ça s'est passé à Tours. La compo du 15 de France de rugby avant le match du rachat samedi face à l'Angleterre. Et puis la fin d'une époque dans l'Orne, après 900 ans, les moines de la Trappe annoncent leur départ.
Nos pères ont reconstruit une église qui est presque de la taille d'une basilique. Alors à l'époque, ils étaient une centaine. Mais aujourd'hui, pour 12 frères, c'est une église qui est complètement disproportionnée.
Reportage à suivre. À partir de 13h30, Sophie Beau, la directrice générale d'SOS Méditerranée, est notre invitée. Il y a 10 ans, son organisation humanitaire réalisait son premier sauvetage de migrants. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Marseille célèbre à partir de dimanche la cuisine méditerranéenne, cela inspire Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'humoriste Thaïs Vauquier et les Anglais de Mortchiba.
Prendre son temps, c'est difficile. Et ce genre de chanson me réancre un peu, me sent un peu plus dans le jardin de chez mes grands-parents que dans le métro.
Avec Julien Baldacchino, voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
10 millions de barils produits en moins chaque jour par les pays du Golfe. C'est la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, nous dit ce matin l'Agence internationale de l'énergie. On va voir dans un instant que les pays du Golfe ont à nouveau été visés et touchés par l'Iran ces dernières heures. Avant cela, l'impact en France. Réunion à Bercy ce matin des distributeurs pour tenter de limiter la hausse des prix, voire limiter le manque d'essence quand les automobilistes inquiets se ruent sur les pompes. C'est le quotidien depuis près de 2 semaines. Des infirmières à domicile. Emma Doé a suivi Laure au sud de Poitiers.
Quand Laure, infirmière à domicile, approche de la station essence, l'angoisse monte.
C'est écrit rupture, tout est rouge. Il y a quand même des prix d'affichés sur le totem. Donc on tente notre chance.
Le verdict ?
A priori, il y a l'essence.
Donc là, ça fait un plein à presque 90 euros.
Contre 75 euros la semaine dernière.
C'est quand même notre moyen de locomotion. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille chez les gens à tout prix. Donc oui, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête et il faut surveiller son compteur.
Un compteur qu'elle ne veut plus voir à zéro comme il y a 3 jours, démunie après 2 stations en pénurie. Laure envisage, dans un futur plus ou moins proche, de ne plus se rendre chez certains patients.
Ceux qui peuvent se déplacer, on leur demandera de venir au cabinet. On fera des permanences, ce qui nous permettra de voir plusieurs patients et c'est pas nous qui aurons à nous déplacer et du coup on pourra ainsi limiter peut-être l'impact.
Vous voulez que je vous emmène avec moi faire un bout de la tournée ?
Allez,
nous nous rendons chez...
Madame Lebras, 84 ans.
Voilà, c'est typiquement une patiente qui ne pourra pas se déplacer.
Je croyais que vous aviez priorité pour se ravitailler.
Non, on n'a aucune priorité pour avoir de l'essence, non.
Ce serait bien. Car si la crise continue, le surcoût pourrait atteindre 150 euros par mois. Impossible de le répercuter sur ses patients. Ce sera déduit de son salaire.
Allez, bonne journée.
Reportage ici Poitou. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Les représentants agricoles et du secteur des carburants et des engrais étaient reçus ce matin au ministère de l'économie par 3 ministres. Vous y étiez. Bon, pas d'annonce majeure, mais on voit bien que les distributeurs se livrent en ce moment à une vraie guerre de communication pour attirer les automobilistes.
Oui, juste avant d'être reçus à Bercy, d'ailleurs, Total Energy a annoncé ce matin des mesures, je cite, de protection des consommateurs dans toutes ces stations. Le distributeur maintient son plafonnement du prix de l'essence à 1,40€. 1,99€ le litre et celui du diesel à 2,09€ jusqu'à fin mars. Hier, c'est Michel-Édouard Leclerc, le patron des magasins Leclerc, qui a promis une baisse du prix des carburants dans les deux jours dans toutes ces stations ainsi que dans celle de Système U de 30 centimes d'euros par litre. Mais Francis Pousse, représentant des stations-service hors grande surface chez Mobilience, a un discours beaucoup plus nuancé.
Alors on jouera évidemment le jeu parce qu'on est dans un marché très concurrentiel à partir du moment où le produit fini baissera. Malheureusement, ce matin, les cours sont à nouveau à la hausse. C'est le coût du produit fini à Rotterdam qui détermine les prix en station-service. Et ce coût du produit fini a aussi bien augmenté hier. Alors je ne connais pas la recette magique de Michel-Édouard Leclerc. On verra samedi ou dimanche si effectivement on a bien des baisses de 30 centimes. En tout cas, nous, on est soumis à l'économie de marché, j'allais dire. Eu égard à nos faibles marges, on ne peut pas se battre avec M. Leclerc sur une baisse de 30 centimes.
Il craint aussi une guerre des prix avec des géants comme Total Energy. Les stations que Francis Pousse représente, souvent sans marque, ne bénéficient pas des mêmes tarifs de protection. Elles risquent, je cite, de sortir perdantes de cette bataille.
Mariam El Kurdi pour ce décryptage. Et pas d'embellie en vue. 12 jours après le début des frappes américaines et israéliennes sur son sol, l'Iran a manifestement toujours la capacité de frapper les pays de la région de l'autre côté du Golfe Persique, ces pays producteurs de pétrole qui sont les alliés des États-Unis. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il y a eu de nouveaux dégâts ces dernières heures.
Oui, frappe contre un champ pétrolier en Arabie Saoudite, des réservoirs de carburant sur la côte omanaise et puis ici à Dubaï au moins 3 explosions entendues ce matin au-dessus d'un quartier résidentiel. C'est ce que nous ont rapporté des habitants qui communiquent beaucoup entre eux à la moindre alerte. Comme d'habitude, les autorités parlent d'un simple incident, expliquant que les explosions sont liées à des interceptions réussies de missiles et de drones. Elles reconnaissent tout de même que des débris sont retombés sur un immeuble le long de la Sheikh Zayed Road, artère emblématique qui traverse Dubaï sur 2 fois 6 voies, mais il n'y a pas de blessés. Et malgré les messages rassurants que diffusent à l'envi les médias officiels, chaque fois que Téhéran rallonge la liste de ses cibles, l'inquiétude devient de plus en plus perceptible. Les centres économiques et les banques sont désormais menacés. Il n'y a pas foule dans les rues. Et quand les derniers touristes auront quitté l'Émirat, les Dubaïotes savent qu'ils auront à gérer un vrai trou d'air économique.
Isabelle Labéry en direct de Dubaï avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. L'Iran qui frappe aussi Israël avec, et c'est nouveau, une coordination entre les Iraniens d'une part et leurs alliés du Hezbollah d'autre part. Le Hezbollah qui tire depuis le nord, depuis le Liban. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, les Israéliens doivent faire face à cette double menace.
Oui, 3 salves de roquettes et de missiles, c'était hier soir et cette nuit. Au nord, le Hezbollah a envoyé donc du Liban entre 120 et 200 roquettes et des dizaines de drones selon les sources. Au même moment, de l'est, le régime iranien a ciblé le territoire israélien avec des missiles balistiques. Le bilan, Jérôme, est anecdotique. 2 blessés légers car la défense antiaérienne est efficace. Mais derrière cette capacité évidente de résilience, il y a de la crainte car pour la première fois, vous l'avez dit, l'Iran et le Hezbollah se sont coordonnés. Ça veut dire d'abord qu'ils ont après 13 jours de guerre, toujours la capacité de communiquer et d'élaborer des stratégies communes de riposte. Et puis qu'ils peuvent essayer de saturer la défense antiaérienne avec les drones et les roquettes du Hezbollah pour permettre ensuite aux missiles iraniens de passer à travers le bouclier israélien et donc de toucher leur cible.
Et dans ce contexte, Thibault, le ministre de la Défense israélien se dit prêt à prendre des territoires au Liban.
Oui, il s'appelle Israël Katz. Alors la crédibilité de ses déclarations est à relativiser. C'est un jusqu'au boutiste qui s'adresse à travers ses messages belliqueux à l'électorat de droite alors que les Israéliens votent cette année. Ceci dit, l'État hébreu a rassemblé des troupes à la frontière. Le Hezbollah menace directement les Israéliens du Nord et l'escalade des dernières heures laisse penser que nous sommes plus proches que jamais d'une vaste réoccupation israélienne du Sud-Liban.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem pour France Inter, avec cette information qui émane du ministre de l'Information libanais qui dresse un bilan des frappes israéliennes au Liban qui, selon lui, s'élève depuis quasiment 2 semaines maintenant à 687 morts. Explosion entendue également ce matin à Téhéran, la capitale iranienne. Les dernières informations avec notre correspondant sur place, Shavoz Ghazi.
Dans ce quartier résidentiel, près de la place Resala, dans l'est de la capitale iranienne, une vingtaine de bâtiments résidentiels ont été totalement détruits. Plusieurs missiles ont touché cette zone. D'abord, un missile qui est venu toucher un bâtiment appartenant au Basij, à la milice islamique, donc qui a été totalement détruit. Et ensuite, quelques minutes plus tard, selon des habitants que j'ai pu interroger, trois autres missiles au moins sont venus frapper des bâtiments résidentiels, donc qui ont été totalement détruits dans cette zone, avec au moins une cinquantaine de personnes qui ont été tuées. Les sauveteurs sont en train de dégager les décombres pour retrouver les corps qui restent encore sous les décombres. Donc ce sont les premières frappes donc menées par Israël donc lundi contre des zones résidentielles qui sont de plus en plus visées par l'aviation israélienne et par l'aviation américaine, même si par exemple dans un premier temps c'est un bâtiment donc de la milice islamique qui a été touché. Les autres missiles qui sont venus frappés ont touché une vingtaine de bâtiments résidentiels totalement détruits dans ce quartier près de la place Resalat à l'est de la capitale iranienne.
Les précisions de Siavosh Ghazi, correspondant de RFI et de France Inter à Téhéran. L'Iran a été frappé à de très nombreuses reprises depuis deux semaines maintenant. Parmi ces frappes, celle qui a touché une école au premier jour de la guerre à Minab, bilan plus de 150 morts. Donald Trump avait dans un premier temps nié la responsabilité américaine. Mais une enquête militaire interne, révélée par le journal américain New York Times, conclut au contraire qu'une erreur de l'armée américaine dans les coordonnées d'une cible serait à l'origine de ce bombardement. Bonjour Christophe Gomard.
Bonjour.
Vous êtes général, aujourd'hui député européen, et vous avez pendant 4 années dirigé le renseignement militaire français. Comment une telle erreur est-elle possible ?
Alors, c'est surprenant. Malheureusement, l'erreur est humaine. Et en dépit de toutes les mesures prises pour vérifier un tir, eh bien, malheureusement, ce genre de déboire arrive. Et on ne peut que regretter ce tir, évidemment, qui a tué 150 personnes, comme vous venez de l'expliquer. Mais si vous voulez, ça s'appelle le processus du ciblage. Et ça se passe de la même façon dans toutes les armées occidentales. Ça se passe en France aussi, et j'espère qu'on n'aura jamais ce genre de déboire si jamais l'armée française devait tirer. Mais vous avez une cible, c'est quoi ? C'est l'endroit sur lequel on veut faire tomber un missile ou une bombe. Les coordonnées sont récupérées. Il y a une analyse de renseignement qui est faite préalablement pour dire voilà ce qui se passe dans cet endroit. C'est une zone d'entraînement, c'est un dépôt de munitions, c'est un PC de commandement. Et puis ensuite, c'est transmis au centre de ciblage qui lui va cibler et savoir quelle arme on va utiliser pour détruire, pour pénétrer le sol. Et ensuite, on va regarder les effets de souffle de cette arme que l'on va utiliser. Et il y a sans doute eu une erreur entre le renseignement, le ciblage, et puis même quand on rentre les coordonnées dans l'arme elle-même, eh bien, il y a un moment donné où, j'allais dire, la chaîne de contrôle a sans doute... fonctionné.
Concrètement, on peut donner aux membres de l'armée américaine chargés du tir une latitude et une longitude précises, et en fait, c'est pas les bons renseignements, ça peut être ça.
En fait, oui, non, parce que là, visiblement, il y avait quelque chose qui ciblait juste à côté, parce que j'en ai compris. Hein. Il y avait une vraie cible militaire à côté de cette école. Donc les coordonnées à quelques mètres près ou quelques dizaines de mètres près n'ont pas été les bonnes. Mais si vous voulez, ça reste assez précis. Malheureusement, l'école n'a pas été intégrée, j'allais dire, dans le plan de ciblage. En France, comment ça se passe quand il y a une école juste à côté ? En effet, on ne tire pas. C'est-à-dire qu'on regarde les effets que pourra avoir l'arme utilisée, enfin le missile ou la bombe, si vous voulez, et on trace un cercle autour de l'effet induit par l'explosion de cette arme. Et bien, tout ce qui est autour, on dit, bah, s'il y a une école trop proche, on ne tire pas. Voilà.
Les renseignements, Christophe Gomard, de quel ordre sont-ils ? C'est quoi ? C'est des photos aériennes par satellite ?
Alors oui, on part en général de photos aériennes de satellite, mais également, il peut y avoir de l'interception électromagnétique qui confirme que l'emplacement est un emplacement militaire. Et puis, vous voir également du renseignement humain, et vous allez chercher du renseignement ouvert pour voir si c'est bien un emplacement possible militaire, même si toutes ces armées en fait se cachent derrière des structures civiles. Bien souvent, sous les hôpitaux, on met des salles de commandement. C'est ce qu'on a un peu vu malheureusement à Gaza.
Ouais.
J'ai pu voir moi dans le passé, si vous voulez, que les ambulances se servaient pour transporter des combattants qui n'étaient aucunement blessés. Donc c'est des véhicules avec une croix rouge. Alors que normalement, si vous voulez, les lois de la guerre disent que un véhicule avec une croix rouge, on ne tire pas dessus parce que ça transporte des blessés. Donc oui, il y a du renseignement préalable très précis et il y a eu une erreur humaine, malheureusement avec de fortes conséquences humaines.
150 morts, dont vraisemblablement beaucoup d'enfants.
Oui, c'est ce que j'ai, ce que j'ai appris. Je crois qu'il y avait 90 petites filles, en plus c'est des petites filles. Oui.
Dans cette frappe, est-ce que ça traduit une faillite du renseignement américain, Christophe Gomard? On a beaucoup parlé de la réorganisation du Pentagone.
Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres frappes qui est foirée, pardonnez-moi ce mot un peu trivial, mais je crois surtout que c'est une erreur dans la chaîne du ciblage. Est-ce que c'est les mauvaises coordonnées rentrées? Est-ce que c'est l'arme qui n'a pas explosé au bon endroit, trop tôt, trop tard? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas suivi l'enquête militaire américaine.
Merci Christophe Gomard d'avoir été avec nous, invité de ce 13-14.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Qui se cache derrière l'affaire de la tête de cochon de Nice? Je vous résume les épisodes précédents de cette affaire qui empoisonne la fin de campagne municipale dans la ville, marquée, on le sait, par la rivalité entre le maire Christian Estrosi et son ancien bras droit Éric Ciotti. Il y a deux semaines, une tête de porc barrée d'une insulte avec une étoile de David est retrouvée devant le domicile de Christian Estrosi. La piste d'un acte antisémite semble s'imposer. Sauf que depuis, deux suspects ont été mis en examen. L'un d'eux a été en relation avec une proche du maire. Et dernier rebondissement que vous allez nous détailler, Emmanuel Leclerc, dans cette enquête, un ancien agent de la DST est donc en garde à vue.
Oui, Jean Lucas est un ancien contre-espion qui traquait les agents du KGB russe sur le sol français dans les années 80, devenu détective privé il y a près de 20 ans. Jean Lucas a fait quelques apparitions il y a 2 ans sur des plateaux de chaînes d'info télé avec des positions pro-Poutine sur le conflit en Ukraine. Il ne cachait pas ses positions politiques à l'extrême droite en ayant rejoint le bloc identitaire en Bretagne avant d'en être exclu à cause de franches positions anti-Marine Le Pen, comme l'avaient souligné nos confrères du Monde. Un très bon professionnel malgré tout, nous confié ce matin l'une de ses connaissances, mais une tendance presque de l'ordre de la pulsion à se fourrer dans de sales affaires. Et là, on y est quand nos confrères de Nice Matin révèlent que Jean-Lucas, employé dans l'une de ces sociétés d'intelligence économique et de barbouzerie présumée en l'occurrence pour l'affaire niçoise, qu'il employait ce jeune informaticien d'origine tunisienne qui est au cœur de cette affaire, mise en examen et déjà placée en détention provisoire.
Alors, l'enquête, Emmanuel, suit la piste d'une tentative de manipulation. Reste à savoir d'où elle émane.
Ah oui, la question, c'est toujours de savoir si le jeune Tunisien a agi seul ou s'il était sous la coupe, justement, de Jean-Lucas. Et dans ce cas-là, l'ancien policier avait-il vendu ses services pour faire déposer cette tête de cochon et cette étoile de David devant le domicile du maire de Nice? Et si c'est le cas, à qui? Aux Russes, à des réseaux de l'ultra-droite ou bien à l'un des deux principaux candidats, Éric Ciotti ou Christian Estrosi lui-même? L'avocat du maire sortant a rejeté ce matin tout lien préexistant avec Jean-Lucas, dont la garde à vue expire demain matin.
Explication signée Emmanuel Leclerc. À Marseille, c'est le nombre de nouveaux électeurs qui intrigue la candidate de la droite et du centre. Marseille compte près de 48 000 nouveaux inscrits, 9% de plus par rapport à 2020. C'est une hausse bien supérieure à la croissance démographique de la ville, plus 15 000 habitants en 6 ans. La candidate Martine Vassal a fait un signalement au préfet. Marseille que le Parti Socialiste souhaite conserver. C'était une victoire de 2020, avec la même stratégie qu'ailleurs, rupture avec la France insoumise, en tout cas avant le premier tour. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Arrêtons-nous ensemble sur deux villes test pour le Parti Socialiste. Deux villes visitées d'ailleurs par le patron du PS Olivier Faure et par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, hier soir et ce soir, Limoges et Toulouse, villes que la gauche peut gagner.
Alors Toulouse, où Jean-Luc Mélenchon tout de même a fait près de 37%, devançant même Emmanuel Macron à la présidentielle, tout comme à Limoges, 26%. Aux élections législatives de 2024, dans ces deux villes, c'est encore LFI qui l'a emporté, et ce sont précisément ces députés qui entendent battre la droite en place. Alors l'enjeu pour le PS, c'est d'arriver en tête au premier tour, et que les récentes polémiques visant l'insoumis en chef aient entamé la crédibilité de ses poulains municipales. Toulouse, c'est François Picmal qui est très implanté, c'est un proche du chef. À Limoges, c'est Damien Modet, lieutenant de François Ruffin, pas soupçonnable d'être un féodé. Mais il y a ce problème du second tour. Si le PS n'est pas en tête, alors les socialistes vont devoir négocier et manger leur chapeau sur pas d'accord avec LFI. Ou alors, il faudra accepter de perdre par pureté idéologique. Ou encore troisième voie, comme peut-être à Nantes, où monte cette petite musique. Johanna Roland-Lamère négocierait sans véritablement négocier en affirmant que son adversaire LFI est propre.
Merci Laurence Perron. La pieuvre du grand banditisme a-t-elle atteint les cabinets d'avocats? 48 48 heures après l'arrestation de 42 personnes soupçonnées d'appartenir à la DZ Mafia. Les gardes à vue se poursuivent et dans le lot, il y a un avocat lyonnais, conseil de plusieurs membres influents de cette DZ Mafia. Il est soupçonné d'avoir participé à un projet d'évasion. Des coups de téléphone en pleine nuit, renvoyés automatiquement sur une autre ligne, ont alerté les enquêteurs. Mais qu'en est-il des règles en la matière, Manon Lombard-Brunel ?
Régi par un principe, celui du secret professionnel entre l'avocat et son client. C'est ce que rappelle maître Louis de Gausse, le bâtonnier de Paris.
Un citoyen, quel qu'il soit, doit pouvoir parler librement à son avocat pour organiser sa défense. Il y a des numéros qui ne sont pas surveillés par l'administration pénitentiaire lorsque un prisonnier va appeler son avocat à partir de la cabine téléphonique de la prison.
Il y a aussi des règles autour de ce qui peut être dit et surtout à qui. Dans le cadre du secret de l'instruction cette fois, un avocat ne peut communiquer des informations sur le dossier qu'à son client. En la matière, certains ont déjà franchi la ligne rouge. À Rouen, une avocate est mise en examen pour avoir transmis des éléments d'enquête à certains membres du milieu. Dans ce type d'affaires, certaines pressions peuvent s'exercer sur les avocats. Romain Boulet, le président de l'association des avocats pénalistes.
Il se trouve que le trafic de drogue obéit à une logique capitalistique qui fait que quand quelqu'un est en détention, effectivement, à l'extérieur, il y a un réseau. Il arrive que des tiers prennent contact avec les avocats pour essayer d'obtenir des informations. Il me semble que quand on est avocat et qu'on porte une robe, on sait très bien ce qu'on fait. Et non, je ne crois pas qu'on puisse glisser ou basculer sans en avoir conscience.
Et les cas d'avocats devenus ripoux restent selon lui exceptionnellement rares. Les condamnations quasiment inexistantes.
Manon Lombard-Brunel. Maintenant, il faut choisir les 743 000 élèves de terminale ainsi que les étudiants en réorientation. Ils étaient 186 000 l'an dernier. Ont jusqu'à ce soir minuit pour soumettre leur choix de formation sur la plateforme Parcoursup. Bonjour Laurélie Carive, spécialiste des questions d'éducation à la rédaction de France Inter. On parle peu, Laurélie, de ces élèves en réorientation. Ce sont des élèves qui ont déjà débuté leurs études supérieures et qui repartent à zéro, c'est ça ?
Tout à fait. Lola, par exemple, son rêve, c'est de faire des études de santé. Et pourtant, c'est en première année de licence d'espagnol qu'elle s'est retrouvée en septembre, faute d'avoir obtenu ce qu'elle espérait.
Quand on se rend compte que toutes ses copines, elles ont été acceptées partout où elles voulaient et que je suis la seule, non, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, là je refais Parcoursup cette année et j'espère que ça va fonctionner. J'ai fait une prépa médecine, du coup toutes les bases de médecine je les ai. Et sur Parcoursup, c'est ce que j'ai mis.
Et ces étudiants en réorientation comme Lola reçoivent en moyenne moins de propositions que les lycéens. Ils ont moins de chance.
L'an dernier, 92% des élèves de terminale ont reçu au moins une proposition contre 82% chez les candidats déjà étudiants. Ça fait 10 points de différence. Mais attention, il faut avoir en tête que souvent, ceux qui se réorientent ont un dossier scolaire un peu moins bon. Ils demandent aussi beaucoup de BTS, de BUT où le nombre de places est limité. Alors, qu'en est-il vraiment ? Nagui Béchichi est économiste statisticien, spécialiste de Parcoursup.
Lorsqu'on compare des étudiants néo-bacheliers et réorientés, mais qui postulent exactement à la même formation et qui ont le même dossier scolaire, on observe des différences qui sont assez faibles dans les chances de recevoir une proposition d'admission. Il y a quand même une petite différence de 3 points de pourcentage. Ça veut dire que, en moyenne, un étudiant en réorientation, il va être un petit peu moins bien reçu dans Parcoursup qu'un étudiant qui est primo entrant dans le supérieur.
Mais que cela ne freine surtout pas ceux qui veulent se réorienter parce que c'est prouvé, en sautant le pas, ils augmentent leurs chances d'obtenir au final un diplôme.
Laurélie Carive, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, libéré en novembre dernier après près d'un an de détention en Algérie et qui dans la foulée avait été élu à l'Académie française, Boualem Sansal va quitter son éditeur historique Gallimard. C'est Gallimard qui l'annonce ce matin en disant sa tristesse face à ce départ. Selon le journal Le Monde, Boualem Sansal serait en discussion pour rejoindre une maison d'édition du groupe Hachette, premier éditeur français et contrôlé par Vincent Bolloré. C'est une éruption hors du commun qui se déroule en ce moment sur l'île de la Réunion. Pour la première fois depuis 20 ans, l'île va être coupée en deux par la lave. La RN2 au sud a donc été fermée par la préfecture depuis une heure. Heureusement, pour l'instant, l'éruption ne présente aucun danger pour les habitants. Alors, ils sont nombreux en plein milieu des vacances scolaires à profiter du spectacle. Reportage de la fourmi.
Sur les pentes du Grand Brûlé, de nombreux curieux arpentent la roche volcanique dans l'espoir d'apercevoir la fameuse coulée. Mais ne voient finalement que les fumées proches.
C'est impressionnant. En même temps, on se sent un peu loin. Mais c'est quand même très impressionnant.
Tiffaine vient régulièrement sur l'île natale de son mari, Hugo, et apprécie la rareté de ce phénomène.
20 ans. Ouais, c'est fou, donc c'est vraiment de la chance d'être ici à ce moment-là.
Pour Maximin et sa femme, retraités, c'est un spectacle incontournable. Ils campent là depuis hier soir.
Pour moi, c'est... on ne peut pas expliquer son bonheur. Et quand c'est interdit, c'est encore plus tentant.
Tentant, mais encadré. Il est interdit de s'approcher de la coulée, car il peut y avoir quelques risques. Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.
Alors le danger principal, ça va être les émanations de gaz. Donc lorsqu'on est proche de la coulée, il y a notamment le méthane avec la végétation qui brûle. Et lorsque, si jamais la coulée arrive à l'océan, il y aura une interaction entre le magma et l'eau de l'océan qui créera un panache gazeux. Donc là, il faudra surveiller ce panache de gaz.
D'ici quelques heures, la lave traversera donc très probablement la route, engendrant des mois de travaux et de galères pour les habitants du sud de la Réunion.
Reportage Lola Fourmi. Eux auraient bien aimé s'envoler pour leurs vacances, mais ils sont restés sur le carreau hier à Tours. 24 passagers attendaient d'embarquer sur un vol Ryanair, destination Marrakech, quand le pilote, agacé par les formalités d'embarquement, qui prenait trop de temps, a décidé de décoller sous leurs yeux pour ne pas rater son créneau de vol parmi les oubliés Maxime.
Situation complètement lunaire. On avait un départ prévu à 12h15. On est arrivé vers 10h à l'aéroport. Et à un moment donné, on comprend que le pilote décide de décoller sans nous. Sachant que nos valises étaient déjà dans l'avion. Ryanair, donc le pilote, est tout à fait dans son droit de dire un quart d'heure avant le décollage prévu initialement, on ferme les portes et on décolle. Le pilote a demandé à ce que les valises qui sont dans l'avion et qui appartiennent aux 24 passagers qui restent à l'aéroport soient retirées de l'avion. Donc on a récupéré nos valises et l'avion a décollé sans nous. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est responsable. Est-ce que c'est les douanes? Est-ce que c'est EDIS? Est-ce que c'est leur sous-traitant? Je peux pas vous dire. Est-ce que c'est un manque de personnel? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on s'est retrouvé quand même dans une situation complètement ubuesque. Ils ont été quand même à l'écoute, mais ils ne nous ont pas apporté de solution à ce jour. On nous a demandé de leur déposer un dossier avec toutes les factures qui correspondent à notre voyage et ils verront ce qu'ils pourront faire. Mais aujourd'hui, on n'a aucune garantie de remboursement.
Maxime, qui a vu l'avion et les autres passagers partir sans lui, témoignait au micro d'ici Touraine. Comment vont-ils rebondir, dépassés, voire humiliés par moments par l'Écosse le week-end dernier? Les rugbymen français s'apprêtent à disputer leur dernier match du tournoi des Six Nations. Ce sera après-demain. Au Stade de France, face à l'Angleterre, en jeu la victoire dans le tournoi. Et malgré la sortie de route écossaise, le sélectionneur Fabien Galthié choisit, exception faite des blessés et des suspendus, de faire confiance au même joueur qu'il y a une semaine, Fanny Lechevestrier.
Oui, pas question donc de remettre en cause la charnière du 15 de France, le duo Antoine Dupont-Mathieu Jalibert, malgré le gros coup de moins bien du capitaine tricolore en Écosse. On est des êtres humains, Antoine est aussi un être humain, même si bien sûr c'est vrai, c'est un joueur exceptionnel. Cela arrive, il n'y a rien de grave, a déclaré Fabien Galthié tout à l'heure. Alors la surprise du chef pour jouer l'Angleterre, c'est la titularisation de Temo Mathieu, le 3e ligne de Bordeaux de 24 ans, tout premier match en bleu. On trouvait intéressant de lui donner une opportunité. Il allie la vitesse, la puissance et l'adresse. C'est justifié le sélectionneur. Suffisant pour dominer l'Angleterre. Attention à cette équipe, toujours redoutable, a martelé le sélectionneur du 15 de France qui, pour prendre un peu de hauteur avant un grand rendez-vous, assistera cet après-midi avec ses joueurs aux répétitions de Roméo et Juliette à l'Opéra Garnier.
En espérant que ça les inspire pour samedi, France-Angleterre, 21h10. C'était déjà face aux Anglais. La guerre de 100 ans n'avait pas réussi à faire fuir les moines de l'abbaye de Soligny-la-Trappe dans le département de l'Orne. Et bien après 900 ans de présence sur place dans cette abbaye du Perche, les derniers moines vont quitter les lieux. Dans 2 ans, ils ne sont plus qu'une douzaine à vivre dans cet immense espace de 250 hectares. Lucie Amadieu s'est rendue sur place.
Au bord d'un étang en pleine forêt, des longères de plusieurs siècles.
C'est la première cour ici.
Et à côté, l'abbaye de la fin du 19e.
Nos pères ont reconstruit une église qui est immense, qui est presque de la taille d'une basilique.
Le père abbé Thomas Georgeon.
Alors à l'époque, ils étaient une centaine, mais aujourd'hui, pour 12 frères, c'est une église qui est complètement disproportionnée.
Et même s'ils sont aidés par des bénévoles, ces hommes de 50 à 90 ans ont du mal à tout entretenir.
La structure demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça a aussi économiquement un coût. Et on est sponsorisé ni par l'État, ni par le Vatican. Donc on s'est dit, pour la vie, on ne peut pas rester.
Ils ne savent pas encore où ils iront, mais le père Albéric se prépare après 28 ans ici.
Quand on a confiance en Dieu, on se dit, pour nous, c'est notre épreuve à nous. 9 siècles de présence dans un lieu, c'est quelque chose, c'est quand même pas évident.
C'est aussi difficile pour Attika. Cette habitante vient souvent promener sa chienne dans le secteur.
Ça me fait bizarre, ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que
quand on parle de Soligny, c'est ça. Enfin, même les personnes non-croyantes, athées, viennent vraiment se ressourcer. Et j'espère que quand même ça va être confié à des personnes qui vont faire quelque chose d'aussi, je vais pas dire spirituel, mais enfin bon...
Les moines espèrent aussi trouver cet acheteur, mais pour le moment, aucune piste.
Une page d'histoire qui se tourne à Soligny-la-Trappe. Reportage Lucie Amadieu, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta, puis à partir de 13h30, la cofondatrice de l'association SOS Méditerranée. Notre invitée, son organisation humanitaire, a débuté son action il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, 01 45 24 7000. Pour vos questions, 13h45, notre feuilleton, nous allons retrouver Luca, notre éleveur de poules Pékin dans le département du Maine-et-Loire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une belle poule de concours? Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud et Julien Baldacchino, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Marie-Luce, vous nous emmenez à Marseille.
Oui Jérôme, parce que Marseille, qui inaugure ce dimanche le Cira Méditerranée, est un effervescence culinaire. Parce que Marseille aussi, nous allons le voir, est le port d'entrée de nombreux produits que nous consommons tous les jours.
Et avec vous, Julien, une humoriste.
Thaïs Vauquier, qui joue son One Woman Show en ce moment à Paris, et nous raconte ses souvenirs d'une chanson du groupe Morcheeba, Rome Wasn't Built in a Day.
Rome n'a pas été...
Ne s'est pas faite
en un jour, voilà, c'est ça. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 20h10, Eva Bester.
Ce jeudi, avec l'ancienne déportée Ginette Kolinka, nous parlerons de mémoire, de transmission et de reconstruction à l'occasion de la sortie de son ouvrage de témoignage « Contre la haine » illustré par Catel.
La 20e heure, tous les jours à 20h10 sur France Inter.
S comme S-Line, S comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, la finition iconique Audi S-Line est offerte sur une large sélection de modèles. Plus qu'une finition, une signature emblématique et sportive. Profitez-en dès aujourd'hui sur l'Audi A3 Sportback hybride rechargeable ou l'Audi Q6 Citroën. Réservez votre essai personnalisé sur audi.fr.
Finition S-Line offerte pour tout achat ou location longue durée d'un modèle éligible dans le réseau participant, voire conditions sur audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Inter, partenaire de la comédie musicale Chicago. Le spectacle scandaleusement chic et glamour, qui a déjà séduit plus de 100 000 spectateurs depuis son retour en France, est exceptionnellement prolongé jusqu'au 17 mai au Casino de Paris. Avec un orchestre live sur scène, plongé dans la comédie musicale la plus culte de Broadway. Au cœur des années 20, dans un Chicago qui mêle crime, jazz et corruption. Chicago au Casino de Paris, une comédie musicale France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Un ciel calme et toujours ensoleillé cet après-midi.
Oui, il n'y a que sur la Corse finalement qu'il reste encore quelques averses et le reste de la perturbation d'hier. Partout ailleurs, une alternance de nuages et d'éclaircies. Des nuages qui seront quand même un petit peu plus nombreux au fil des heures entre le nord-ouest et la pointe nord. Et ça, ce sont les prémices de la perturbation qui nous attend demain. Perturbation pluvieuse qui va apporter de la pluie.
De la pluie.
Les premières gouttes d'ailleurs pour le Finistère, ça sera en toute fin de journée.
Et des températures encore douces?
Oui, on a bien senti la baisse des températures ce matin. Avec même des gelées sur le nord-est, et bien cet après-midi, c'est sensiblement la même chose qu'hier. 13 à 17 degrés du nord au sud, 16 à 19 près de la Méditerranée, selon Météo France.
Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Sophie Beau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée France. Vous avez créé cette organisation humanitaire il y a 11 ans, 2015, pour venir en aide aux migrants qui traversent la mer Méditerranée et qui font naufrage. Et il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, le 7 mars 2016, votre bateau de l'époque, l'Aquarius, réalisait son premier sauvetage depuis l'Aquarius, puis l'Ocean Viking et leurs équipages ont secouru 43 078 personnes lors de 459 opérations. On va faire ensemble le bilan de ces 10 années avec les auditeurs également qui souhaitent nous appeler 01 45 24 7000 pour être avec nous. Vous passez également via l'application Radio France, c'est l'onglet Réagir. Sophie Beau, il faut revenir au point de départ, 2014, le début de la crise des réfugiés syriens. Il fut la guerre civile par centaines de milliers direction l'Europe, l'opération humanitaire et militaire italienne de sauvetage qui s'arrête, des naufrages en série au printemps 2015. Et là, la création de l'organisation. Racontez-nous.
Effectivement, avec un capitaine de marine marchande allemand et moi-même qui suis humanitaire, nous nous sommes rencontrés à ce moment-là avec cette terrible situation de la Méditerranée qui devenait un cimetière, qui connaissait en fait la plus grande tragédie humaine de l'histoire de la Méditerranée. C'était des milliers de morts. Et face à cela, les États étaient défaillants, puisque l'Italie qui avait mené une opération de sauvetage pendant un an, l'opération Mare Nostrum, a mis fin à cette opération en novembre 2014, et c'est bien pour cela que les traversées ont continué. Hein, ça démonte bien d'ailleurs la théorie de l'appel d'air, c'est que ce serait parce qu'il y a des bateaux de sauvetage que les gens traverseraient. Donc non, l'opération Mare Nostrum s'est arrêtée, il n'y avait plus aucun bateau de sauvetage en mer. Et malheureusement, les traversées ont continué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers de morts. Et là, on s'est rencontrés avec ce capitaine. Et on s'est dit, les États sont défaillants, mais la société civile a aussi ses responsabilités à prendre. Lui, en tant que marin, moi, en tant qu'humanitaire, on ne pouvait pas assister à cette tragédie sans rien faire. Et on s'est dit, on essaye, à notre mesure, de secourir au moins une personne. Si on y arrive, ça vaut le coup. On met en place ce projet d'association qui a été très porté par la société civile.
Vous lancez cette initiative et, j'allais dire malheureusement, quelques mois plus tard, septembre 2015, dans l'un des naufrages, un garçonnet de 3 ans, originaire de Syrie, kurde de Syrie, trouve la mort. Il s'appelle Alan Kurdi. Personne n'a oublié la photo de ce petit garçon de 3 ans, son corps étendu sur cette plage de Turquie. C'est une émotion mondiale et là, les dons affluent.
Effectivement, c'était le moment, alors totalement par hasard, où on avait prévu d'exposer notre projet, puisque nous étions en train de créer l'association, de chercher des financements, de chercher un bateau. Et juste avant la première conférence de presse et la première conférence publique où on expose le projet de SOS Méditerranée au musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée à Marseille, à ce moment-là, se passe ce nouveau drame et ce petit garçon qui a ému la planète entière et qui a suscité beaucoup d'émotions, qui a aidé aussi SOS.
Et de réactions politiques. Il y a une initiative, je crois, de François Hollande et d'Angela Merkel le lendemain.
Il y a eu énormément d'émotions publiques, politiques, qui malheureusement ne s'est traduite par aucun mécanisme de sauvetage concret. Et donc nous, on a continué, porté par cette aussi émotion qui a beaucoup touché la société civile. On a continué notre projet et c'est à ce moment-là qu'on a affrété l'Aquarius. Et comme vous le disiez, ça s'est traduit par un premier sauvetage le 7 mars.
Mars 2016. Vous pouvez nous raconter, c'est
bien sûr. Bien sûr. Donc l'Aquarius était parti de Lampedusa quelques jours plus tôt. Patrouillait dans cette mer qui est parfois très déchaînée. La mer Méditerranée n'est pas toujours calme et bleue. Une première embarcation pneumatique avec 74 personnes s'est présentée. On l'a trouvée à la jumelle à ce moment-là. Et donc, on a opéré le premier sauvetage. Et je me souviendrai toujours, toute ma vie, de ces photos qui nous arrivaient parce qu'il y avait un journaliste photographe à bord qui documentait et qui nous envoie ces photos de personnes qui sortent de l'eau et chaque personne, une par une, en leur tend la main. Et c'est ce même geste, en fait, qu'il faut faire, qu'il faut répéter. C'est 43 078 fois, ce même geste de
la main tendue.
Une par une, la main tendue. Et on ne peut pas faire autre chose que de secourir ces personnes. On ne va pas les laisser mourir en mer. C'est ça le constat de base de SOS Méditerranée. C'est un devoir moral. C'est aussi une obligation légale qui est prescrite dans le droit international et le droit de la mer, qui est extrêmement clair.
Avant de voir ce qui se passe après dans l'histoire, je voudrais qu'on s'arrête sur votre mode de fonctionnement. Comment est-ce que vous choisissez les zones où vous positionnez votre bateau? La mer Méditerranée, elle est immense.
On se positionne sur l'axe de Méditerranée centrale, donc c'est entre la Libye et l'Italie, parce que cette zone-là est la plus meurtrière au monde. C'est l'axe migratoire le plus meurtrier au monde. Et c'est donc pour cette raison que notre bateau patrouille sur cette zone à la recherche d'embarcations en détresse. On sait qu'il y a souvent des départs de Libye, parce que la Libye, c'est un État totalement corrompu et failli, qu'il y a beaucoup de trafiquants d'êtres humains qui prospèrent et qu'ils mettent à l'eau ces embarcations qui ne peuvent absolument pas traverser cette immense étendue d'eau de plus de 400 km, ça ne les effraie pas, ils les mettent quand même à l'eau. Et donc, très souvent, les naufrages ont lieu dans cette zone, en fait, de Méditerranée centrale. C'est pour cette raison qu'on a choisi la Méditerranée centrale, qui reste encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, toujours la zone la plus meurtrière. Je rappelle peut-être un chiffre, plus de 34 000 morts au total décomptés par l'OIM depuis 2014. Et c'est 80% qui sont sur cette zone de détresse où nous positionnons notre bateau.
Est-ce que vous êtes alerté de risque de naufrage ou bien est-ce que vous rencontrez finalement ces bateaux un peu par hasard?
Alors on n'est pas toujours alerté parce que malheureusement depuis 2018, la coordination des sauvetages a été transférée des gardes-côtes italiens, qui avant le faisaient de manière extrêmement professionnelle, aux gardes-côtes libyens, avec qui l'Union européenne entretient des accords, avec un financement, des équipements, et cette responsabilité donc théorique de devoir coordonner les secours, qu'ils ne font absolument pas. Et donc non, ils ne transmettent plus les appels de détresse qu'ils devraient faire d'après le droit de la mer, qui est extrêmement clair sur leur responsabilité.
Ça veut dire que vous n'avez plus d'alerte du tout ?
Donc on a plus d'alerte par les services des États qui sont en charge de la coordination des secours. Néanmoins, on est sur le pont, à la jumelle, on repère à peu près un tiers des embarcations directement à la jumelle. Et puis, il y a d'autres moyens d'alerte, d'autres bateaux qui sont sur zone, qui voient des embarcations en détresse, ou bien des moyens civils, qui peuvent être une ligne téléphonique civile qui s'appelle Alarm Phone, qui s'est dédiée à l'enregistrement des cas de détresse, comme ça. Et puis, surtout aussi, des petits avions qui survolent la Méditerranée à la recherche d'embarcations en détresse. Et récemment, SOS Méditerranée a pu mettre en place justement un avion pour compléter nos moyens de détection et de repérage de ces cas de détresse.
Justement, Sophie Beau, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent « mais en fait, vous facilitez même involontairement les activités des passeurs puisque vous êtes là pour assurer le sauvetage quand ça va mal ?»
Alors, je vous l'ai dit, et il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur ce sujet puisque c'est effectivement une des accusations qui est portée à l'encontre de notre action. Lorsqu'il n'y a plus de navires de sauvetage, il y a toujours des traversées. Ça a été documenté. Encore une fois, prenons le cas de Mare Nostrum 2014, plus aucun navire de sauvetage sur la zone. Et pourtant, les traversées continuent par milliers et ce sont des milliers de morts. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? C'est au contraire une hausse de la mortalité. Parce qu'il y a toujours des traversées, peut-être dans une moindre mesure, à peu près deux fois moins que dans les années 2016-2017, mais il y a toujours des traversées. En revanche, il y a beaucoup moins de navires de secours humanitaires tels que celui de SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, parce qu'il y a de très nombreuses entraves qui sont placées par les États sur l'action des ONG.
Est-ce que vous pouvez toujours débarquer en Italie ?
Alors, nous débarquons en Italie, c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'à la fois l'Italie...
Giorgia Meloni vous autorise à débarquer dans les ports italiens.
C'est très paradoxal. Ouais. L'Italie a assumé la charge de la coordination des secours pendant des années, l'a transférée aux gardes-côtes libyens, c'est totalement défaillant aujourd'hui, mais en même temps, comme c'est défaillant, ils respectent finalement le droit maritime qui dit qu'ils doivent récupérer cette responsabilité quand c'est défaillant. Donc au final, ils finissent par nous indiquer des ports de débarquement, puisque le droit maritime prévoit que c'est les États qui indiquent où les bateaux doivent débarquer les naufragés. Ce n'est jamais le capitaine qui décide lui-même. Ça fait partie des fantasmes autour de notre action, mais je répète, c'est les États qui décident où on doit débarquer. Et donc, en fait, l'Italie nous désigne des ports. Mais ces ports sont extrêmement lointains. Ce sont des ports les plus au nord possible de l'Italie. On met 3, 4, 5 jours de navigation pour aller débarquer. Par exemple, la semaine dernière, nous avons eu 100 naufragés à bord de l'Ocean Viking. On a dû parcourir toute la mer Adriatique pour aller les débarquer très loin. Et c'est à nouveau 5 jours pour retourner sur la zone de sauvetage. Au total, ça représente plus d'un an et demi, on a calculé 591 jours d'obstruction à notre activité de sauvetage sur cette période de 10 ans, en blocage et en immobilisation du bateau pour différents motifs sur lesquels on pourrait revenir longuement, mais je pense qu'on n'a pas le temps aujourd'hui.
Vous avez débarqué une seule fois en France ?
Exactement.
C'était à Toulon, après 21 jours en mer.
Tout à fait.
Et ça a été une très longue attente, et je suppose pour vous peut-être l'un de vos pires souvenirs.
Ça a été... Il y a beaucoup de souvenirs compliqués quand même sur ces 10 ans. Il y a eu deux dépavillonnements d'affilée en 2018. L'Aquarius qui avait dû aller jusqu'à Valence le jour où Matteo Salvini avait annoncé que les ports italiens étaient fermés tout d'un coup en juin 2018. Et puis effectivement, cette attente de 3 semaines qui était extrêmement angoissante à bord pour les 234 rescapés et qui nous a contraints à trouver un autre pays pour débarquer les rescapés. Donc encore une fois, c'est une instruction qui est venue de l'État français qui a pris ses responsabilités face à la défaillance de l'État italien à ce moment-là.
Je l'ai dit, 2018, le contexte a changé, mais vous avez toujours pu compter sur des soutiens, parmi lesquels Eric Fotorino, qui a fondé le 1 Hebdo entre-temps, qui est l'un des chroniqueurs de ce 13-14, qui en décembre 2021 compose un conte moral et philosophique en réponse à ces hécatombes. Il nous a envoyé ce message.
La pêche du jour est un texte que j'ai publié dans mon journal le 1 en décembre 2021 et puis qui a donné lieu à une pièce de théâtre au Théâtre du Rond-Point dite par Jacques Weber et Lola Blanchard pendant des semaines et des mois. avec nos amis de SOS Méditerranée. Et à cette occasion, j'ai découvert combien ils étaient courageux, tenaces, volontaires, et aussi le côté indispensable de leur action. Je crois que ce sont eux, sur l'Ocean Viking notamment, qui sauvent l'honneur de l'Europe face à ces migrants qui se noient par milliers, par dizaines de milliers, depuis plus de 30 ans en Méditerranée, qui est devenue la mer la plus meurtrière du monde.
Il y a ce soutien d'Éric Fotorino, Sophie Beau, mais vous sentez bien que notamment dans l'opinion publique, ce discours, il est de plus en plus difficile à tenir.
Alors écoutez, on a de plus en plus de bénévoles aussi, même si la situation en Méditerranée ne fait plus du tout les gros titres, alors qu'il y a toujours des drames, hein, malheureusement, et beaucoup de morts. Je rappelle quand même que les premiers mois de l'année 2026 sont les plus meurtriers depuis 2014. Donc une situation qui reste tragique, qui n'est plus trop dans les médias, mais quand même beaucoup de soutien de la société civile aussi. Il faut quand même le rappeler, c'est... Aussi, les moyens d'existence de SOS Méditerranée, c'est 24 000 euros par jour, notre mission, qui sont financés essentiellement par la société civile et par les donateurs privés individuels.
Isabelle de Meudon, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je crois que votre question, elle concerne justement le bénévolat et l'aide.
Oui, merci d'abord d'exister. Ça réconcilie un tout petit peu avec le genre humain. J'entendais tout à l'heure parler de l'opinion publique. Ça dépend quelle opinion publique. Ouais. Je crois qu'on est très nombreux à trouver que la mer Méditerranée est devenue un cimetière et que SOS Méditerranée fait un travail extraordinaire. Ouais. Pour ma part, je suis donatrice permanente. Ma question est comment est-ce qu'on peut aider en plus qu'en donnant de l'argent tous les mois? Est-ce que il y a encore de la place pour des bénévoles? Qui contacter? Et j'engage toutes les personnes intéressées à aller sur votre site internet qui est magnifiquement bien fait. Merci encore.
Merci Isabelle. Sophie Beau.
Alors oui, déjà, merci énormément pour votre soutien et les dons réguliers. C'est ce qui nous permet de tenir en fait financièrement. C'est la source de revenus le plus prévisible possible. Donc on en a absolument besoin et c'est déjà une énorme aide et je vous en remercie. Et puis ensuite, on a plus de 1000 bénévoles. On a 23 antennes sur l'ensemble du territoire. Donc regardez sur notre site, sur la carte des antennes bénévoles pour pouvoir rejoindre nos antennes. Il y a une mission qui est essentielle, c'est le témoignage qui est porté essentiellement par les bénévoles au sein de l'association.
Il y a eu de belles histoires tout de même durant ces 10 années de SOS Méditerranée, Sophie Beau, notamment en mars 2017, la naissance de cette petite fille, merci, sur l'un des bateaux qui a ensuite inspiré le duo français Madame Monsieur, qui a composé cette chanson qu'on entend, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2018. Vous savez ce qu'elle devient, merci? Je crois qu'elle va avoir 9 ans dans quelques jours.
Oui, absolument. Son anniversaire, c'est le 21 mars. Elle est née à bord de l'Aquarius. Elle va bien. Elle et sa maman vivent en France maintenant.
En France.
Elles ont eu l'asile, elles ont le statut de réfugié. Et c'est une petite fille qui va à l'école et qui va bien, comme le dit la chanson de Madame Monsieur. Tout
voilà,
va bien.
Qu'on entend à l'instant. Merci Sophie Beau d'avoir été avec nous aujourd'hui, cofondatrice de l'association SOS Méditerranée, qui a donc réalisé ses premiers sauvetages en Méditerranée il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. 13h47 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Depuis lundi, nous suivons notre éleveur de poules Pékin, Luca Vio, installé dans le Maine-et-Loire. Il a seulement 18 ans, une passion peu commune qui le mène jusqu'à participer à des concours. Il est même vice-champion de France après un travail de longue haleine que l'on découvre dans ce troisième épisode.
Vraiment, le but, c'est que ça soit une petite boule la plus basse possible sur pattes, très ronde, une bonne largeur d'épaule, une bonne largeur de queue, une toute petite tête. Une petite boule sur patte avec des plumes aux pattes. Il y a énormément de couleurs qui existent. Je travaille sur trois couleurs, donc le noir caillouté, donc c'est du noir avec des points blancs, le bleu caillouté, donc c'est du gris clair avec des points blancs, et le splash, du coup c'est tout blanc avec des éclaboussures bleues, donc c'est quelques plumes qui sont grises un peu partout sur le corps. J'ai directement accroché sur cette race-là parce que déjà c'est assez facile, c'est pas du tout sauvage, c'est pratique parce que ça vole pas du tout, c'est une race qui est très pato, c'est une race naine donc ça mange pas non plus énormément, ça reste aussi assez simple, voilà. Au fur et à mesure des années, bah, j'essaye d'améliorer des points que je veux améliorer. Donc, par exemple, moi en ce moment, c'est surtout au niveau de la tête. Donc, avoir les plus petites têtes possibles, un bec très court et très fort. Et puis, la hauteur, avoir des sujets très très bas, très volumineux et très légers surtout. Donc, avec beaucoup de plumes, quoi. Juste avant les expos, il y a des échelles de poids. Par exemple, une poule en exposition, ça ne doit pas dépasser les 1,1 kg et un coq, les 1,3 kg. La saison des concours, elle va débuter en général début octobre. pour laisser le temps aux éleveurs de faire grandir leurs jeunes qu'ils ont pu faire naître. Et puis après, il y a toute une préparation. Donc en général, on rentre les jeunes un mois avant l'exposition pour les mettre en intérieur, pour laisser le temps aux plumes de pâte, par exemple, qui ont été un peu abîmées à l'extérieur, de bien repousser, de bien se refaire, qu'ils se refassent un peu une santé, quoi. Et puis, une bonne semaine avant l'exposition, ça va être le moment du toilettage. Donc là, toutes les poules vont passer à la douche. Et puis le dernier jour, juste avant l'exposition, on va mettre un peu de vaseline sur les crêtes des mâles, souvent pour que la crête soit bien rouge. Il faut vraiment que le sujet soit le plus propre possible et le plus présentable. Pour participer en exposition, il faut que le sujet ait minimum 6 mois pour qu'il ait ses vraies plumes d'adulte, que la tête soit bien développée, que la crête aussi. Donc ça demande une grosse sélection et garder vraiment que les meilleurs. Cette année, j'ai pu performer au championnat de France à Limoges avec une poule bleu caillouté qui a fait championne de France en variété bleu caillouté et vice-championne de France en toute catégorie en Pékin femelle. C'est la poule qui a pu faire championne de France à Limoges. Donc là, elle est moins jolie en ce moment parce que du coup, je l'ai toilettée pour la reproduction. Donc normalement, elle a vraiment un vrai pompon.
Donc là, c'est là, coupé sur l'arrière.
Toutes les plumes ici sont coupées pour espérer avoir un meilleur taux de fécondité. Parce que vraiment, ça a énormément de plumes. Là, ça prend vraiment tout ça, quoi. Premier concours de l'année, ça sera fin octobre. Là, normalement, les premiers poussins sont nés assez tôt. Donc, ils seront sûrement prêts pour les expositions. Là, cette année, je ne sais pas pourquoi, les poules, elles se sont mises à pondre très, très tôt. Comparé à l'année dernière, par exemple, l'année dernière, j'ai eu mes premiers œufs milieu avril. Et là, j'ai mes premiers poussins que j'ai eu début février, donc ça leur laisse pas mal de temps pour bien se développer, pour qu'ils soient bien prêts pour les expositions.
Luca Vio, rencontré par Sarah Mansour, à suite et fin demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h51. La France à table avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, direction Marseille, avec vous, la ville qui inaugure son premier salon dédié aux saveurs méditerranéennes.
Oui, rendez-vous de dimanche à mardi pour la première édition du CIRA Méditerranée, un événement réservé aux professionnels comme l'est son grand frère de Lyon, devenu au fil des ans l'événement mondial de la gastronomie. Choisir Marseille n'est pas un hasard, d'abord parce que cette ville est en pleine effervescence culinaire, ensuite parce que cette cuisine du Sud a une influence majeure dans notre alimentation quotidienne.
Les héros de Pagnol, qui adoraient manger, on ne l'a pas oublié, seraient donc de retour sur le Vieux-Port.
Mais c'est un peu ça. Ils se nomment aujourd'hui Marie Dijon, Dinaba ou encore Pierre-Antoine Denis. Jeunes chefs inventifs, ils font souffler le Mistral dans les assiettes et bénéficient du boom touristique que connaît la ville depuis 5 ans. Pour Ézéchiel Zera, auteur de Marseille, un jour sans fin, il règne une énergie bien particulière dans cette cité phocéenne qui ne se laisse rien dicter. Entendez qu'on y est assez imperméable aux modes venus d'ailleurs et qu'on aime bien les créations du cru, comme cette chef italienne qui ouvre une table d'hôte 3 jours par semaine en conviant au fourneau des mamies romaines, ou ces 2 vingtenaires qui ont lancé Annette, un restaurant totalement dédié à l'enfance. Jérôme, il faut ajouter à ce bouillonnement les très nombreuses initiatives culinaires sociales et solidaires, car à Marseille, 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et l'alimentation est donc un enjeu majeur.
Marseille, qui est aussi, Marie-Luce, la porte d'entrée de la cuisine méditerranéenne.
Oui, les courgettes, les tomates, les artichauts, de nombreuses herbes et épices ont débarqué en France par le Vieux-Port. Tous ces produits ont emprunté le Rhône, cheminé au gré de ses affluents et finalement conquis le pays. Historien de formation, le chef Emmanuel Perraudin nous raconte ce métissage au long cours, cette romantique qui propage son alimentation au fil de ses conquêtes. Bien avant la fin de la guerre d'Algérie, savez-vous que l'on trouve au XIXe siècle une recette de couscous dans un livre de cuisine français? Les saveurs méditerranéennes sont donc omniprésentes, mais aussi terriblement actuelles. Cette culture alimentaire considère la protéine comme un condiment, elle valorise ce qui est simple, et tout cela est en phase avec notre époque, souligne Emmanuel Perraudin.
Et vous nous proposez donc une recette de couscous, pas n'importe laquelle, la recette du couscous des radins.
Oui, un couscous au pain rassis, qui est assez proche du brouet, une soupe médiévale épaisse qui est codifiée dans un ouvrage du sud de l'Italie au XIIIe siècle déjà, le Liber des Coquina. Faites dégorger 8 os à moelle pendant une heure dans une eau claire, avant de les cuire au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Taillez 800 g de pain rassis en cubes, disposez-les dans le couscoussier et laissez la vapeur opérer. Émiettez dans un grand bol salé, poivré, saupoudré de paprika et de cumin, enrobé de 10 centilitres d'huile d'argan ou d'olive, mélangé en incorporant un peu de moelle. Dans le couscoussier ou tout ustensile qui fait de la vapeur, disposez deux oignons hachés, une gousse d'ail également hachée, recouvrez avec le pain et laissez cuire 3 minutes après que la vapeur a commencé à s'échapper. Servez avec une pluie fine d'oignons fruits, le reste d'os à moelle et une salade de poivrons grillés. Vous trouverez cette recette et beaucoup d'autres dans le livre Couscous, le meilleur c'est celui de ma mère, signé Emmanuel Perraudin et Marie-Josée Ordener chez First Edition.
On la proposera aussi sur le site de C'est la France, sur le site de Radio France. Merci Marie-Luce Ribaud. De C'est la France à C'est une chanson. Votre invité, Julien Baldacchino, n'est pas cuisinière, mais humoriste.
Thaïs Vauquier, qui joue son One Woman Show nommé Fille de Joie jusqu'à la fin du mois de mars au Théâtre du Gymnase à Paris. Elle a choisi une chanson du groupe Morcheeba qui lui rappelle beaucoup de souvenirs. Rome Wasn't Built in a Day, c'est le titre.
C'est mes parents qui l'écoutaient pas mal. Ils n'ont pas exactement les mêmes goûts musicaux, même s'ils se retrouvent sur pas mal de trucs. Et notamment, Morcheeba, c'était carrément le cas. Mon père, il est musicien, donc il y avait un truc déjà de voilà. Et puis ma mère, elle aime beaucoup la musique aussi. Enfin, ça a toujours fait partie de... Je dirais que mon père, il écoute la musique plus fort, que ma mère va plutôt la mettre en fond. Mon père, il faisait des compiles. Parce qu'il enregistrait genre le move ou les trucs comme ça. C'était marrant parce que chaque début ou fin de chanson, ça faisait le move. Enfin, à chaque fois, c'était cuté un peu mal, quoi, parce qu'il fallait qu'il saute sur le poste. Je crois que celle-là, chanson, elle faisait partie d'une des compiles qu'il avait fait. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day, we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Je trouve ça toujours difficile en fait de trouver déjà une chanson qui nous représente. Je pense que c'est plus sur le moment aussi, on a les chansons qui nous font du bien. Par exemple, j'ai une playlist qui s'appelle Mood. C'est un peu les trucs que j'écoute quand je me sens pas très bien et tout. Et j'avoue que avec l'actu, tout en fait. Et puis moi, je me suis séparée il y a pas longtemps. Enfin, ça faisait un peu beaucoup. Et cette chanson-là, elle a un truc très très apaisant, beaucoup d'espoir en fait. Et je trouve qu'en ce moment, c'est chaud. Et ça, la chanson, elle parle du fait qu'on a le droit de prendre son temps. C'est un peu des trucs de dire, t'es pas obligé de tout speeder tout le temps. Ça m'a fait plaisir.
C'est important de se rappeler ça dans le monde d'aujourd'hui où effectivement on a l'impression que si on va pas à 200 à l'heure, on n'y arrive pas.
Ouais. Puis en plus, dans le métier d'humoriste, il y a un truc un peu... Faut tout de suite, tout le temps faire des trucs pour pas être oublié. Tout est très rapide et tout est très dans le tourbillon, quoi. Parfois, faut apprendre. Moi, j'ai du mal à faire ça. Je comble le vide et tout, et puis j'ai le vertige et puis de l'agenda et du balcon. Mais je pense que, ouais, c'est prendre son temps, c'est difficile. Et ce genre de chanson me réancre un peu, me sens un peu plus dans le jardin de chez mes grands-parents que dans le métro, quoi. Moi, mon père, il a ce truc, quand j'ai pas un casting, quand j'ai pas un truc, moi, c'est un peu la fin du monde, c'est un peu, voilà, parce que c'est dur. Lui, il est persuadé, enfin, c'est que si là, je l'ai pas, c'est la logique des choses qui fait qu'en fait, c'est parce qu'il faut de la place pour accueillir autre chose. C'est comme se séparer d'un con pour avoir la place de peut-être rencontrer quelqu'un qui sera bien. Ça se trouve, vous rencontrerez personne, mais vaut mieux ne pas traquer un con.
Ah, il vaut mieux se séparer d'un con. Bon, Rome ne s'est pas faite en un jour, Julien. C'est le message de cette chanson, c'est l'an 2000.
Oui, et c'est un message qui, pour Thaïs Vauquier, fait à la fois partie de la bande-son de sa vie, et c'est une chanson en même temps qui joue un vrai rôle.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'il y a un truc un peu moteur aussi pour sortir du lit, aller au sport, faire plein de choses. Après, moi, j'avoue que j'ai un peu ce défaut-là d'être assez tyrannique sur la musique et notamment, c'est moi qui mets dans la voiture et tout, machin. C'est pas bien, faut pas faire ça, mais voilà. Et du coup, je crée la bande originale de ma vie. Il y a une petite mélancolie dans la mélodie, en vrai. Hein. C'est pas Wake Me Up Before You Go Go, quoi. Il y a un truc un peu presque... C'est une caresse, quoi. C'est un truc de... ça va. Après une crise d'angoisse, genre un truc comme ça, de genre... quand on a pleuré... Et qu'il y a ce truc de soulagement après avoir pleuré. Genre, cette émotion-là de
Les épaules qui sont plus au niveau des oreilles, quoi. Genre, c'est ça que ça me fait. C'est plus un truc de... Ouais, un peu de coton, quoi. Un truc un peu douillet, quoi. Dans Vice Versa, dans Pixar, ils ont à la fin, ils disent que la joie et la tristesse, ça peut pas exister l'un sans l'autre. Mes parents, ils sont plus ensemble et tout ça. Donc, ça me rappelle des moments joyeux que moi, j'avais un peu eu tendance à foutre sur le côté hein, en disant, le divorce, c'est la merde. Donc, l'amour, c'est de la merde. Donc, machin. Et du coup, ça me redonne une forme de douceur par rapport à ça, où j'avais été en rejet total de genre, ah oui, d'accord, on a vécu dans la petite maison dans la prairie, mais en fait, ça n'existe pas. Et maintenant, je suis plus dans un truc de moi, d'avoir grandi là-dedans, de chérir ces moments. Enfin, j'ai hâte de la réécouter avec mon neveu. Mon frère, il a eu un bébé. Voilà, c'est une espèce de transmission. Se trouve, il va me dire, c'est nul de ouf, mais c'est pas grave, il choisira, quoi.
Rome wasn't built in a day, du groupe Morcheeba. C'était le choix de Thaïs Vauquier.
Qui est jusqu'à la fin du mois à Paris au Théâtre du Gymnase, mais aussi en tournée en France, en Suisse et en Belgique.
Merci Julien, à demain.